Top, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On n'est pas à Koh-Lanta là.
La bonne réponse.
Eh ben non, on n'est pas à Koh-Lanta, il est 9h40, on est sur France Inter et c'est l'instant M qui redémarre.
Bonjour à tous et bon dimanche.
Ça reste la référence, mais je regarde jamais la télé.
4 secondes exactement, parce que nous sommes en...
J'ai 46 ans, quand j'étais petite, je rêvais des States. J'attendais avec impatience le jour où je verrais New York pour de vrai, où je marcherais dans une rue ou conduirais une voiture comme dans un film américain. Mes enfants ont 14 et 16 ans depuis tout petit. Ils rêvent de quoi? Ils rêvent du Japon, si loin, si inaccessible, si désirable, si fascinant. Ils en connaissent tout, la géographie, l'histoire médiévale, les codes sociaux, mangas et animés japonais, l'alpha et l'oméga de leur culture et de leur fantasme. La rupture entre nos deux générations. Ce matin, plongé en eau jeune, très jeune même, parfois vous verrez, mode de consommation et levier de la narration, un pied dans la télé, un autre dans la BD.
L'instant M, Sonia De Villers, sur France Inter.
Et je me fais plaisir ce matin. Bonjour Marie Palot.
Bonjour.
On est très content de vous recevoir, Marie. Vous présentez un petit magazine pour les petits. Ça s'appelle Zinzin. C'est sur Roku, la plateforme de France Télé. Et c'est aussi sur France 4. C'est un magazine de pop culture pour les très très jeunes. On va en reparler ensemble. Je précise que vous êtes arrivée, et ça n'était pas prévu, vêtue d'un t-shirt Totoro.
C'est vrai.
Triple Totoro, ouais. Sur le t-shirt. Plus un kimono. On va en reparler. Mais d'abord, par téléphone, nous rejoint Luc Boursier, qui est le fondateur d'Isneo. Bonjour Luc.
Oui, bonjour.
Alors, soyez le bienvenu, vous aussi.
Merci.
On va parler avec vous de Webtoon. Et je disais à Marie, avant l'émission, quand moi j'étais jeune, quand on parlait aux enfants, on simplifiait beaucoup le langage, parfois même on le bêtifiait. Et quand on parlait aux parents, on entretenait une certaine complexité. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Aux enfants, on peut tenir un langage tout à fait technique et pointu, et aux parents, on vulgarise pour que les parents comprennent. J'aimerais que vous nous parliez, Luc Boursier, de ce que c'est que le Webtoon.
Oui, bien sûr. Alors le Webtoon, c'est tout simplement une bande dessinée numérique, ou un manga numérique, même pourrait-on dire, qui est conçu spécialement pour le smartphone. Mm-hmm. Donc ça veut dire que vous, sur votre smartphone, vous pouvez lire en faisant défiler verticalement les images et les textes. Et donc vous lisez une histoire de cette façon-là, et ça se présente sous forme d'épisodes. Chaque épisode est lu en fait à peu près entre 3 et 4 minutes chacun des épisodes. Et bien sûr, c'est une histoire à suivre qui permet donc de lire sur un 20, 30, 40 jusqu'à 100 épisodes une histoire complète.
Voilà. Alors vous, Isneo, quel est votre rôle sur le marché du Webtoon?
Oui, bien sûr. Alors nous, en fait, nous sommes une plateforme de diffusion, c'est-à-dire que en fait, le Webtoon, on peut le trouver uniquement sur les plateformes spécialisées dans la diffusion de bandes dessinées ou de mangas, disons de récits graphiques, disons de manière plus générale numérique. La particularité d'Isneo, c'est que nous proposons donc la lecture de Webtoon à la fois, enfin, dans un univers qui comprend à la fois le Webtoon, mais aussi toute la bande dessinée, le manga, les comics. Donc on a plus de 60 000 contenus accessibles donc aux utilisateurs pour qu'ils puissent à la fois lire, parce que les goûts personnels ou familiaux varient. On peut aussi bien lire Lucky Luke et puis Naruto tout autant que des webtoons. Donc on a une offre qui est globale et dans laquelle se trouvent donc des webtoons.
C'est ça.
Je pourrais peut-être juste ajouter, on peut acquérir donc les épisodes de webtoons soit à l'unité, on achète un épisode, donc c'est très peu cher, c'est quelques centimes, et de l'autre côté, on peut éventuellement choisir aussi de s'abonner, donc pour avoir accès à l'ensemble des séries Webtoon qui sont offertes.
C'est extrêmement intéressant parce que pendant très longtemps, la BD numérique, la BD lue sur smartphone ou sur tablette, au fond, c'était des images scannées. Alors que là, il y a une vraie adaptation du format à ces petits écrans verticaux. Et le manga s'y prête particulièrement bien. Quel genre de manga, Luc Boursier? Quel genre de production asiatique?
Alors, vous avez raison. Alors, le Webtoon, c'est d'abord un format. Donc, aujourd'hui, il se trouve que ce format a été inventé, on va dire, en Corée. Hein, c'est là l'origine à la fois du terme et puis même du format lui-même. Et ensuite, aujourd'hui, on voit bien que c'est surtout dans l'Asie du Sud-Est que s'est développé ce marché qui est devenu très important. Et en fait, il véhicule aujourd'hui des graphismes qui sont plutôt d'inspiration, on va dire, manga, effectivement.
Ouais.
Mais demain, il est fort probable et peut-être même certain que des graphismes d'autres origines, d'autres formes également viennent enrichir l'offre de Webtoon, puisque en fait le Webtoon encore une fois c'est juste un format qui permet de diffuser des contenus sur le smartphone.
Sauf que dans la famille du manga Luc Boursier, il y a plein de chapelles, il y a plein de familles, il y a plein de genres en réalité. Hein, quand on voit ça de l'extérieur, on a l'impression d'une production uniforme. Quand on connaît de l'intérieur, il y a plein de genres à part entière. Est-ce qu'il y a des genres qui sont plus privilégiés sur le webtoon, sur la lecture sur smartphone?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on voit. Alors, il y a une différenciation qui se fait aussi entre le stade de maturité de chacun des marchés sur lesquels le webtoon est présent, puisqu'en fait aujourd'hui on voit qu'en Corée, par exemple, tous les genres sont représentés de manière assez égale, hein, aussi bien la science-fiction que le thriller, que les histoires du quotidien. Mais ce qu'on voit en fait en Occident aujourd'hui, en France en particulier, c'est une prévalence de ce qu'on appelle le shoujo, c'est-à-dire l'histoire d'amour. En fait, aujourd'hui, c'est le type de contenu qu'on retrouve le plus et qui est le plus demandé, le plus attendu par les lecteurs de webtoon aujourd'hui, parce que tout simplement, c'est un contenu qui est peu disponible aujourd'hui dans l'offre livre imprimé, par exemple.
C'est donc, ça. On les trouve beaucoup moins bien, moins en librairie et donc beaucoup plus sur le numérique. C'est de la romance en réalité, c'est ça?
Oui, c'est ça. Bah, appelons ça les histoires d'amour.
On va faire réagir Marie Palot. Vous restez avec nous, Luc Boursier. Oui. C'est extrêmement intéressant de voir que, évidemment, il y a une explosion du manga en France. Marie Palot, c'est même aujourd'hui un marché croissant et la France est le deuxième marché du manga. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Et c'est intéressant aussi de voir ces modes de consommation qui évoluent.
Alors, justement, nous, je crois qu'on s'est fait dépasser par les États-Unis, malheureusement. Hein,
pendant très longtemps, on était le deuxième marché.
Voilà, mais on va revenir hein, de toute façon. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, le webtoon, c'est un format qui est donc né en Corée. À la base, c'est les premiers manhwa, c'est les premiers mangas coréens qui ont été numérisés parce que là-bas, en fait, la vie va à 200 à l'heure et que le futur est déjà leur présent. Donc, on est à des siècles d'inventivité et de technologie par rapport à la Corée du Sud. Ce qui fait qu'en fait, tout simplement, eux, ils ont un mode de consommation très différent qui est adapté à leur vie quotidienne. Mais c'est vrai que ça change totalement la dimension de lecture.
C'est ça.
Le fait de faire défiler verticalement, alors que nous, on est habitués à un sens de lecture japonais, par écrit. Et on voit quand même que, malgré l'extrême popularité du webtoon qui a vraiment explosé ces mois derniers, il y a quand même une volonté d'avoir des supports papier. Donc il y a des webtoons qui sont mis en format papier, comme des mangas, et qui sont mis sur le marché français. Donc je suis pas sûre qu'on soit encore 100% adapté au webtoon, mais il est indéniable que le format est extrêmement populaire et il est international. Il y a des titres américains qui cartonnent sur les plateformes de webtoon aujourd'hui.
Luc Boursier, je vous remercie d'avoir fait un tour dans l'instant M à distance par téléphone. Et puis, comme c'est un marché qui émerge et qui explose, je pense qu'on en reparlera ensemble dans quelques mois. Vous serez le bienvenu à nouveau.
Merci
à très
beaucoup,
bientôt.
Merci.
Bienvenue dans Zinzin, l'émission de la culture pop qui fait... Et oui, elle fait waouh cette émission. C'est pas ouf ça?
Ça, c'est le magazine Zinzin sur Ocou, la plateforme pour les petits de France Télévisions et également sur France 4, chaîne qui devait disparaître et puis chaîne qui finalement va réapparaître. Marie Palot en est donc l'animatrice. Vous vous adressez aux très jeunes, Marie, vraiment très jeunes. Ils ont moins de 10 ans, vos téléspectateurs?
Disons que la mission d'adressage, ce qu'appelle France Télé l'adressage, c'est la façon dont on va s'adresser aux plus jeunes, c'est entre 7 et 12 ans.
Ouais.
Après, j'aime bien dire que la culture, elle est donnée à tout le monde. Donc c'est sûr que le ton et la pédagogie va être adaptée aux plus jeunes.
Mmh. Mais on tutoie son téléspectateur.
On le tutoie parce que, encore une fois, on se met à son niveau.
Ouais.
Et si on vous voit, ça va créer une distance. Moi, je suis pas forcément...
Donc on ne parle pas aux parents qui se demandent de quoi nourrir culturellement les enfants. On parle aux enfants
on
directement.
On parle aux enfants.
Ouais, c'est ça.
Comment ils pourront expliquer aussi à leurs parents qu'ils aiment telle ou telle chose. Donc en fait, c'est très ouvert.
C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a tout un bassin culturel auquel adhèrent les petits, dans lequel ils sont complètement à l'aise comme des poissons dans l'eau et dont les parents n'ont pas les codes aujourd'hui.
Bien sûr, même moi, il y a des choses. Pourtant, je fais quand même, je ne suis pas si vieille que ça, je crois, et je suis très connectée. J'ai Internet depuis longtemps. Et il y a des choses dont on parle j'en avais aucune idée. Ouais, c'est
ça va, ça va très vite. Ouais. L'émission est très courte, elle dure un petit quart d'heure, elle reprend les codes de YouTube.
Effectivement.
Voilà, ça j'imagine que c'est archi volontaire, puisque c'est la grammaire.
C'est-à-dire plus que YouTube, dans le sens où le niveau de graphisme, la post-prod, ils sont très très forts. Des fois, on me transforme en robot, on me transforme en kaiju dans le dernier épisode, donc en monstre géant au milieu de Tokyo. Et ça, c'est rendu possible aussi par les techniciens, les petites mains de l'émission qui sont fabuleux.
C'est ça, mais ça veut dire quand même des montages cut, des phrases très courtes, très séquences très hachées. Ouais. Il faut ça aujourd'hui pour tenir éveiller l'attention d'un enfant.
Disons qu'il faut ça pour dynamiser. Parce que mine de rien, même si un quart d'heure, un peu moins d'un quart d'heure, ça passe vite, il faut quand même leur raconter une histoire. Il faut pas les perdre.
Alors raconter une histoire, justement, l'émission elle se présente sous forme de dossier thématique, que on parle d'Orient ou qu'on parle de monstres géants type Godzilla. Et à chaque fois, l'idée c'est une histoire, c'est-à-dire un enjeu, un début, un milieu, une fin, des personnages. C'est comme une sorte de petit conte que vous déroulez.
Exactement. On a un thème et autour de ce thème, on va dérouler plusieurs thématiques, qu'elles touchent le ciné, la littérature, la bande dessinée. Et on va raconter une histoire du début jusqu'à la fin avec un personnage que j'incarne, qui des fois invite un double, voire un triple, qui se transforme, je me suis transformée en génie pour une émission justement sur les contes des mille et une nuits. Donc tout est possible et effectivement on tient ce fil rouge de A à Z.
Avec l'idée à chaque fois, alors vous allez piocher énormément dans le manga, évidemment on va reparler, mais vous piochez aussi dans presque tout l'univers des jeux vidéo à conditions qui soient à hauteur d'enfants, j'imagine que voilà. Vous piochez aussi dans l'histoire du cinéma, y compris, à mon avis, dans des films auxquels ils n'ont pas accès.
Complètement. On a même parlé de Georges Méliès, on parle de musées qui étaient fermés pendant la crise et qui ont réouvert pour nous. On essaie vraiment de parler de tout, même des choses qui touchent les parents des enfants, qui touchent les grands-parents des enfants, parce qu'on a tous eu nos petites Madeleines de Proust à nous, et donc on essaie de leur expliquer qu'autour de ce thème, eh bien, leurs parents ne sont pas asbies, et ils pourront discuter de ça aussi avec
eux. Parce que par exemple, vous parliez de l'émission sur les Mille et une Nuits et sur l'histoire de l'Orient. Ça commence par Is No Good, ce qui ne nous rajeunit pas.
Effectivement, effectivement.
Mais on va se balader dans Prince of Persia, qui est un immense jeu vidéo, et dans le manga, évidemment, dans les mauvais génies au cinéma, où là, il y a quand même du cinéma des années 50, du cinéma des années 60. Donc, voilà. Et évidemment, il y a une forte prévalence de la culture asiatique dans un magazine de pop culture pour les si jeunes.
Disons qu'on est, on ne peut pas l'ignorer, quoi. Elle n'est pas forcément systématique, mais par exemple, pour Les Mille et Une Nuits, ça aurait été très dommage de ne pas parler du manga Maggie, qui a été un véritable carton. On peut privilégier peut-être certaines bandes dessinées, comme on l'a fait avec Is No Good, qui est un véritable héritage entre un père et un fils qui a repris l'œuvre de son papa. Mais on ne se ferme pas toutes les portes. On ne considère pas qu'il y a des sous-cultures, des sous-genres. On met tout au même niveau. Parce que les enfants aiment avoir tout devant eux et pouvoir piocher.
Alors, vous avez plongé comment, vous, dans la pop culture asiatique ?
Ben, j'y ai plongé assez tôt, en vérité, par mon grand frère, qui, lui, est des années début des années 80. Donc, il a eu tout ce qui était Récréa 2, Club Dorothée, etc. Donc, disons qu'il m'a imposé, entre guillemets, les cassettes qu'il enregistrait avec Jeanne et Serge, Dragon Ball, etc. Et je suis tombée là-dedans grâce à lui. Il importait aussi les premiers CD de J-pop, les premiers CD même de K-pop. Donc, tout ce qui est pop coréenne, pop japonaise. Donc, j'ai baigné là-dedans en étant petite, entourée de mangas. Et puis, en fait, ça m'a suivi toute ma vie. C'était mon hobby, ma passion. Et un jour, j'en ai fait mon métier.
Vous diriez que la pop coréenne aujourd'hui prend la relève du fantasme japonais dont je parlais en introduction?
Oh oui, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand vous avez des groupes de K-pop qui font deux stades de France à guichet fermé en 30 minutes, quand vous voyez la force du webtoon, quand vous voyez Parasite, le film qui a raflé tous les prix, que ce soit à Cannes, aux Oscars. Aujourd'hui, il y a un vrai amour du public envers la culture coréenne, qui n'a pas été freiné, heureusement, par la crise sanitaire. Malheureusement, on a vu un racisme anti-asiatique qui s'est formé. La culture coréenne n'en a pas pâti, je crois. On voit une prolifération des restaurants coréens et de cette culture à travers son soft power qui est extrêmement
extraordinaire. Et penser, c'est une vraie stratégie nationale et c'est une vraie
ça
stratégie.
Ça porte un nom, c'est des budgets dégagés chaque année pour ça. C'est une vraie stratégie coréenne de promouvoir le pays à travers la culture.
Justement, ça fait réfléchir aux gens de ma génération, c'est-à-dire quand vous dites des groupes de K-pop qui remplissent des stades de France et qui en même temps ne sont jamais diffusé en radio, jamais diffusée en télévision. Ce qui est intéressant avec la pop culture pour les très jeunes, c'est qu'il y a vraiment une sorte de pop culture, on va dire, officielle, institutionnalisée, qui a sa part de voix en radio et en télé. Et une autre qui est complètement sous les radars.
C'est vrai.
Et qui pourtant commercialement fait des cartons.
Alors je me demande si c'est une histoire de droit, est-ce que c'est une histoire de snobisme, je ne sais pas.
Ouais.
Mais il est évident que par exemple, une station de radio aujourd'hui qui ne passe pas de K-pop, parce qu'elle ne connaît pas, c'est que vraiment, y a un souci. Après j'imagine bien que ça va bien au-delà et qu'il doit y avoir des accords entre les maisons de disques, etc. Mais ce serait vraiment idiot et vraiment être aveugle que d'ignorer aujourd'hui la force ne serait-ce que de la K-pop. Mmh. Les Américains l'ont très bien compris, Jimmy Fallon en a largement profité.
Jimmy Fallon qui est un présentateur de Late Show, ouais. hyper coté, suivi aux États-Unis,
qui aujourd'hui déroule le tapis rouge à la K-pop. BTS, donc le groupe emblématique de la K-pop, plus qu'à un Brad Pitt ou n'importe quel acteur. Donc ils ont compris en fait que ça fait vendre, que ça fait cliquer, que ça engage aussi les jeunes à revenir sur des médias qu'on appelle vieillissants. Moi j'aime pas trop l'idée qu'on dise non mais je regarde plus la télé parce que c'est vieillissant. En fait, c'est les personnes qui les incarnent, qui peut-être ne sont pas au courant, comme moi aujourd'hui, je ne suis pas au courant de tout ce qui se fait pour les plus jeunes, et qui n'en parlent pas.
Je précise que vous avez à la fois un pied sur France 4 où vous parlez aux plus petits, un pied sur la plateforme qui s'appelle Oku,
ouais.
Mais aussi un pied sur Twitch, qui est donc cette grande plateforme de live, de streaming où chacun fait sa télé dans son coin et diffuse en direct,
ouais.
Où vous êtes chroniqueuse dans l'émission de Domingo, dans l'émission d'autres,
ouais.
Où là aussi vous faites un pont entre les générations, entre les spécialistes et les non-spécialistes, entre les gamers et les non-gamers.
Ben, je fais un pont dans l'autre sens. Je fais un pont pour leur expliquer qu'à la télé, il y a des trucs cool et que même si sur Twitch, on a un peu la génération rebelle qui s'offusque un peu de voir que les médias vieillissent, etc. En tout cas, pour citer les choses qui reviennent le plus souvent à mes oreilles, c'est que non, il y a des choses cool à la télé. Il y a une vraie mission de service public, il y a une transmission de culture, et c'est hyper important de se renseigner et de voir un peu ce qui est fait. Donc honnêtement, aujourd'hui j'ai les pieds un petit peu partout, ça me permet aussi de rester à l'écoute de ce qui se fait, de ce qui se dit, et ça me permet aussi d'adopter peut-être un ton assez décontracté sur Zindine,
ouais, qui vous caractérise.
Ouais.
Et je vous pose une dernière question, Marie Palot, parce que c'est en préparant cette émission que je m'en suis rendu compte. Vous êtes en réalité un des très rares visages asiatiques sur le PAF à la télévision française. Il y en a très peu, et c'est en vous regardant à la télé que j'en ai pris conscience. C'est quelque chose qu'on vous renvoie, qu'on vous fait remarquer.
C'est des choses que les Asiatiques me renvoient.
Ouais.
C'est des choses qui me sont remontées, qui m'ont énormément touchée quand je me baladais, par exemple, dans le quartier Sainte-Anne, donc le quartier japonais de Paris.
Ouais.
J'ai des jeunes qui m'ont arrêté avec leurs parents et qui m'ont dit ça fait plaisir parce que bah en fait on se sent un peu représenté.
C'est ça.
Et je m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai que moi mes modèles ils étaient américains,
ouais.
Ils étaient afro-américains, ils étaient issus du monde du rap, du R&B, etc. Mais c'était pas des asiatiques.
Ouais.
Donc je me dis que petit à petit, peut-être qu'on aura un petit peu plus de représentation et ça fait du bien.
Merci Marie Palot, merci d'être venue sur France Inter ce matin. Marie Palot, c'est Zinzin, c'est sur Oku et c'est sur France 4. Et puis on a parlé avec Luc Boursier tout à l'heure, Disneyo, c'est une plateforme sur abonnement. J'en perds mes mots ce matin. Et quand on a un gamin qui passe des semaines et des semaines pendant l'été sur son smartphone, autant qu'il regarde de la bande dessinée.